Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Allez, avec Luc Ferry, bonjour mon cher Luc, bienvenue
mon cher
sur votre
Guillaume.
Radio Classique. Oh là Parlons de cette affaire d'immigration évoquée par Guillaume Tabar tout à l'heure avec le projet de loi VLR. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on inscrive justement les principes qui gouverneraient notre politique migratoire dans la Constitution ?
Non, c'est pas fait pour. Je trouve que le projet VLR est très bon, sauf justement ça. Voilà, je pense qu'il faut également... Donc, il est très bon, ils ont bien travaillé, il y a des très bonnes choses. En plus, tactiquement, c'est très malin, ça prend Emmanuel Macron et son gouvernement à contre-pied. Donc c'est plutôt bien fait. Je trouve que le modèle danois est très bon, mais en revanche, moi je pense qu'il ne faut pas toucher à la Constitution.
Pourquoi ?
Parce qu'elle n'est pas faite pour ça, et parce que c'est très dangereux de toucher à la Constitution, d'y mettre des choses qui n'ont rien à voir, pour des raisons de communication. De la même manière, je vous explique ça. Je suis absolument contre la possibilité de déroger aux règles et aux lois de l'Union européenne. Je sais que ça plaît énormément à une grande partie de la droite et qu'ils vont être en désaccord avec moi, mais c'est une grave erreur parce que si vous vous exemptez, si un pays s'exempte...
C'est ce qu'ils affirment dans le projet qu'ils ont déposé. Hein.
C'est pour ça que je vous en parle.
Ouais.
Si, et c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas d'accord avec ces deux points-là. Voilà. Et donc, si un pays comme la France s'exempte, dit voilà, on va s'exempter des règles, de l'acquis communautaire, bon, des lois qui sont celles de l'Union européenne, mais les autres en font autant, Guillaume, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Et un autre détriment. Et donc, moi, je suis pour qu'on modifie les règles de l'Union européenne, même assez largement, mais il faut les modifier ensemble. Vous savez, je suis pour une Europe à 10, je trouve que cette Europe à 28 ou 29, c'est une absurdité, donc je suis pour une Europe à 10 avec des modifications, mais on peut pas s'exempter tout seul, sinon les autres en font autant. La Hongrie le fait, la Pologne le fait. Chacun va tirer de son côté pour son intérêt propre et alors évidemment si dans ce cas sortons de l'Europe, soyons clairs. Mais on peut pas faire ça. Je dirais que c'est de la démagogie. Sinon, encore une fois, sur le fond, il y a beaucoup de bonnes choses dans ce projet. Ça va mettre évidemment Emmanuel Macron en difficulté parce que s'il refuse le projet, bon, voilà, il aura l'air d'être celui qui refuse le compromis. Il peut pas l'accepter dans l'état actuel à cause des deux motifs que je viens d'évoquer qui sont impossibles à avaler pour quelqu'un qui est au pouvoir. D'ailleurs, que ce soit Macron, que ce soit un autre.
Et un référendum?
Bah, le référendum, sur quoi il porterait? Moi, je suis pas contre le référendum, mais sur quoi il porterait?
Bah, sur l'idée que la France a la possibilité de décider de sa politique migratoire, par exemple.
Non, mais vous pouvez pas faire un référendum sur une question vague. Il faut que ça porte sur quelque chose de précis.
Non, mais
est-ce que vous êtes favorable à une politique de quotas?
Bon, oui, c'est ça.
Mais laquelle? Voilà, il faut. Si vous voulez, le problème du référendum, c'est que c'est oui ou non. Voilà, donc c'est pas sur des sujets qui sont aussi compliqués,
de
poser des questions. Bah oui, voilà, c'est pareil si vous faites un référendum sur les questions climatiques, par exemple. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez de la décroissance? Est-ce que vous voulez de l'écomodernisme, du découplage? C'est extrêmement compliqué. Donc je suis pas convaincu que. Et en plus, vous savez très bien que le référendum, le problème du référendum, c'est que les Français répondent à celui qui pose la question et n'est pas à la question posée. Donc je trouve pas. Je trouve que c'est très démagogique. Donc, qu'on prenne le modèle danois, ce sera déjà très bien.
Voilà. Alors, est-ce que, par exemple, vous êtes d'accord ou favorable, Luc, à ce que le Parlement, par exemple, chaque année, c'est dans le projet d'Emmanuel Fillon, de François Fillon en 2017,
fixe des quotas. Oui, bien sûr, oui, évidemment.
C'est-à-dire que le Parlement,
Mais évidemment, bien sûr. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de choses à reprendre du modèle danois qui est quand même... En plus, l'avantage du modèle danois, c'est qu'il est élaboré par des sociodémocrates et donc c'est très difficile pour la gauche de dire que c'est des fascistes. Hein. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment le pays le plus social-démocrate du monde.
Oui, mais Véran dit c'est pas possible, c'est pas notre modèle culturel.
Mais on se fiche de ce que dit Véran, ça n'a aucune espèce d'importance. Le problème de savoir si on va faire des choses raisonnables ou pas en matière d'immigration, il faut évidemment d'abord avoir une politique de lutte contre les passeurs, il faut appliquer les OQTS, déjà il n'y a pas besoin de modifier la Constitution ni de sortir de l'Europe pour appliquer les arrêtés d'expulsion du territoire. Bon, donc il n'y a pas besoin de modifier la Constitution pour ça. Voilà, et puis par ailleurs, il est évident qu'à long terme, il faut une politique avec les pays qui sont des pays d'émigration, donc des pays qui nous envoient des gens qu'on n'a pas forcément envie de recevoir. Il faut qu'il y ait une politique des accords avec eux. Ce qu'avait proposé Xavier Bertrand, c'est que si ils ne reprennent pas leurs ressortissants qui sont en situation irrégulière chez nous, il y ait des sanctions contre ces pays. C'est très facile à faire, hein. C'est pas du tout impossible.
Bah, la question des visas, la politique des visas, ça a été très compliqué, et avec le Maroc,
c'est pas
et
très
avec
compliqué.
La
compliqué, c'est pas très compliqué, c'est un plan sacré des tensions, ouais.
Mais
c'est pas forcément compliqué pour autant.
On disait quota.
Quota, oui, bien sûr. Non, mais il y a des bonnes choses dans leur projet. Je ne suis pas du tout négatif. Je dis simplement que l'idée qu'on va sortir des règles européennes pour s'arranger, nous, dans ce cas, les autres en feront autant, c'est tout. Donc, c'est pas possible.
Assimilation de la langue, est-ce que ça vous paraît obligatoire?
Ça n'a aucun intérêt. C'est de la communication, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est vous mettre assimilation dans la Constitution, ça changera rien.
Non, je parle pas dans la Constitution.
Non,
je
ils veulent le mettre dans la Constitution.
Oui, d'accord. Mais est-ce que vous considérez, par exemple, que justement, cette politique de quotas, il faut que ça corresponde à, par exemple, des diplômes
l'apprentissage de la langue, avoir un job, etc. Comme en Allemagne. Bien sûr. Mais évidemment.
Qui est une adéquation totale entre les besoins de l'économie française et les
totale, c'est compliqué, mais oui, en tout cas, c'est le but.
Ça fonctionne en Australie, ça fonctionne au Canada.
Mais c'est le but de la politique de quotas, bien sûr. Et de même, il faut faire comme en Allemagne, quand Madame Merkel a décidé d'assimiler, c'est le cas de le dire, 1 million de Syriens, ce qui a suscité la colère de la France, d'ailleurs. Mm-hmm. Mais ce que Madame Merkel avait fait, c'était finalement très très intelligent. C'est obligation absolue d'apprendre l'allemand et d'avoir un job. Mm-hmm. Sinon, vous rentrez chez vous. Voilà, donc c'est ça qu'il faut faire. Donc je suis évidemment pour une politique de quotas, évidemment qui corresponde aux besoins de l'économie française, et avec une politique d'assimilation, bien sûr, avec l'obligation de parler la langue. Mais c'est pas parce que vous mettrez le mot assimilation dans la Constitution que ça changera quoi que ce soit.
Question, donc après cette affaire de Constitution, nous en arrivons à ce qui se passe donc en Ukraine avec la prise de Bakhmout. Oui. Les dénégations de Zelensky au G7 ont été plus que floues. Oui. Donc il semblerait que Wagner contrôle bien cette ville. Enfin, pour l'instant, il faut être extrêmement prudent, car nous ne sommes pas sur le terrain, mais assis tranquillement dans un studio.
Et oui.
Ça donne quand même le sentiment que, pour l'instant, la situation est extrêmement fragile et qu'elle n'est pas compensée forcément par la venue de Zelensky à un G7 au Japon.
Bon, écoutez, vous savez, j'ai pas changé d'avis, je pense pas qu'il y ait de solution. Par la guerre, voilà, depuis un an, je ne cesse de le dire, je pense que tout part de la guerre du Donbass, donc tout commence en vérité en 2014-2015, par la décision des Ukrainiens de régler le problème du Donbass, des séparatistes du Donbass par la guerre. Je pense que c'était une erreur et même une faute, et je pense que tout part de là. Donc, à partir de ce moment-là, je pense pas qu'il y ait de solution par la guerre, et je pense que l'envoyer des F-16, d'abord, comme le disait tout à l'heure votre invité, très justement, ils vont arriver quand, combien, je sais pas, j'entendais un général expliquer qu'il y avait 320 Sukhoi en état de marche, et il va y avoir combien, une dizaine de F-16 en 6 mois. Bon, c'est pas ça qui va changer les choses.
Laurence parlait, puisque vous l'avez cité, Laurence Haïm parlait de négociations en sous-main, y compris du côté des Américains.
Mais elle a raison.
De là.
Mais elle a raison.
Les milliards déversés, justement, pour aider l'Ukraine.
D'ailleurs, on est totalement d'accord. Elle me disait qu'elle était... Ça m'a fait plaisir qu'elle était entièrement d'accord avec ce que je disais depuis des mois et des mois. Ça m'a fait plaisir, parce qu'on est un peu minoritaire. Et je pense qu'il n'y a pas de solution par la guerre, il n'y en a aucune. Et que ce qu'on fait... Ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas les F-16, c'est la décision de fournir à l'Ukraine des missiles longue portée. Si jamais un missile tombait sur Moscou, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que vous croyez? Imaginez le scénario du pire. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais imaginons le pire du pire. Imaginons que les Russes décident de vitrifier une grande ville ukrainienne, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. On ne va pas envoyer... Les Américains ne vont pas faire une guerre nucléaire avec la Russie. Donc, bon, vous voyez, c'est quand même... Moi, les gens qui disent « Ah, les menaces russes ne font plus peur », mais c'est la deuxième armée du monde. Il faut quand même arrêter de déconner. C'est la deuxième armée du monde. Ils ont un arsenal nucléaire qui est colossal. Donc, il faut quand même arrêter de plaisanter. Et donc, il n'y a pas de solution par la guerre. Parce que pourquoi il n'y a pas de solution par la guerre? Parce que Poutine ne peut pas se permettre de perdre cette guerre. C'est impossible pour lui. Et donc... Quand on dit, ah ben, il faudrait que Poutine s'en aille, mais s'il y avait un Kadyrov ou un Prigogine à sa place, ce serait encore 1000 fois pire. Donc, il n'y a pas de solution par la guerre. Et donc, le point de départ, l'idée que les Ukrainiens ont eu, qu'ils allaient pouvoir régler le problème des séparatistes de Luhansk et de Donetsk par la guerre, en envoyant des bataillons comme le bataillon Azov, ben, c'est une idée qui était catastrophique, je suis désolé de le dire. Et tout part de là. Donc, aujourd'hui, nous, on risque rien, vous et moi, ici, à Paris, pas plus que mon camarade Danny Cohn-Bendit à Francfort. Ceux qui prennent des bombes sur la tête, c'est les populations ukrainiennes. Mm-hmm. C'est pas les Russes.
Mm-hmm. Mais
c'est pas les Américains. Donc il y a un moment où il faut être responsable et se dire voilà, il n'y a pas d'autre solution. Et c'est pas être ni poutinien ni collabo que de dire il n'y a pas de solution par la guerre. C'est pas l'Ukraine ne peut on pourra mettre 100 milliards d'armes américaines dans l'Ukraine. L'Ukraine ne battra pas la Russie, c'est pas vrai.
On est d'accord sur cette nécessité de la paix, et en tout cas,
il faut y arriver.
Comme le disait tout à l'heure, négociation en sous-main, c'était
la raison. Oui.
Maintenant, il y a un mouvement culturel, c'est toujours mon éternelle remarque, qui est ce mouvement des pays de la région qui, au fond, se revendiquent maintenant comme des pays occidentaux du camp du monde libre et qui ne veulent plus du tout dépendre, parce que c'est aussi ça la base de l'affaire ukrainienne, mais la base de l'affaire des pays baltes ou d'autres
pays,
qui veulent les Polonais, etc., qui se revendiquent maintenant comme étant des pays non pas occidentaux, mais faisant partie de ce camp-là.
Mais ça, c'est leur droit, mais c'est pas de là que vient la guerre. La guerre, elle vient du fait qu'il y a des séparatistes pro-russes qui sont largement majoritaires en Crimée, ils sont 85% en Crimée, qui sont probablement aussi largement majoritaires à Luhansk et Donetsk, qu'ils ont accepté l'indépendance de l'Ukraine en 1991, ils ont voté pour, d'accord ? Y compris en Crimée. Hein. Ils ont voté pour l'indépendance de l'Ukraine, mais quand l'Ukraine était à 75% hostile à l'intégration dans l'OTAN. Donc, qu'il y ait une partie, l'Ouest de l'Ukraine, qui soit absolue, qui désire, comme vous l'avez dit très bien, être pro-européenne, je le comprends parfaitement, être européenne, vivre dans le monde libre.
Pas simplement l'Ukraine, hein, les pays baltes.
Tous les pays baltes, la Pologne, évidemment, la Hongrie, c'est plus compliqué, mais la Pologne et les pays baltes, c'est évident. Mais je le comprends parfaitement. Simplement, il se trouve que c'est pas de bol. L'Ukraine n'existe comme nation que depuis 1991, et puis il y a une partie qui est russe. Voilà. C'est pas de chance, mais c'est comme ça. Voilà, c'est les résultats de l'histoire, c'est les résultats de l'histoire de l'Union soviétique. C'est comme l'Ossétie. C'est exactement le même problème qu'avec l'Ossétie. Bon, et donc l'Ossétie, elle a finalement été rattachée. Et si vous allez en Crimée, moi j'y suis allé, 85% des Criméens sont russes.
Mais au départ,
ils veulent pas être ukrainiens.
Au départ, ce qui n'est pas accepté par les Ukrainiens, c'est que dans le projet Poutine, première version au moment de l'attaque, il était question d'aller jusqu'à Kiev
très rapidement. Non, ça c'est l'Occident qui a dit ça. C'est complètement faux. Non, j'y ai jamais cru. Seconde,
non,
c'est
vous n'y avez jamais cru, mais c'était quand même le projet.
Non, pas du tout, non. Non, ce qui est vrai, c'est qu'il avait très il avait très probablement le projet d'assassiner Zelensky, ça c'est très possible, oui. Ça veut pas dire de vitrifier ou d'occuper Kiev, c'est pas vrai. Non, simplement, ce que la Russie regrette, évidemment, c'est le coup d'État de la place Maïdan, ça c'est vrai là-dessus, mais ça veut pas dire qu'ils veulent occuper la... D'ailleurs, quand vous regardez l'Ukraine, quand vous regardez l'histoire des élections, vous savez, à chaque élection 2004, 2006, 2006, c'est très tendu entre les pro-russes et les anti-russes. C'est très tendu, c'est pas, il y a pas 90% des Ukrainiens qui votent pour les pro-OTAN. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que me disait un de mes amis, un chef d'entreprise qui disait une chose intelligente. De facto, l'Ukraine est dans l'OTAN aujourd'hui. C'est une évidence. L'Ukraine est absolument dans l'OTAN aujourd'hui. On va lui donner des F-16, elle a les missiles intercontinentaux anglais, elle a les armes des États-Unis et de l'Europe, elle est de facto dans l'OTAN. C'est ça la vérité. Et donc, moi, je comprends parfaitement que les Ukrainiens veuillent être ukrainiens, libres, européens. Tout ça, c'est une évidence. Je connais l'Ukraine, je me mets à leur place, je serai comme eux. Le problème, c'est qu'il fallait régler la question des séparatistes autrement que par la guerre, c'est tout.
Est-ce que vous allez lire le prochain Houellebecq ?
Non,
ça
fait très longtemps que je lis plus Houellebecq. Je considère que c'est un vrai écrivain. Je suis évidemment d'accord avec ça.
Oui, ça, parce que j'ai lu ce week-end.
Je déteste sa vision du monde. Non, je pense que les grands écrivains français, pour moi, c'est Emmanuel Carrère, c'est Yasmina Reza. Voilà, ça m'intéresse infiniment plus que Houellebecq. Je n'aime pas son monde. J'aime pas. C'est au fond, c'est du Bourdieu littéraire, quoi. C'est pas du tout ma tasse de thé. Mais encore une fois, c'est un vrai écrivain. Il sait raconter les choses. Bon, ça fait rire les gens. Il trouve ça très drôle. C'est pas ma tasse de thé.
Ce n'est pas que drôle, quelques mois dans ma vie. Le dernier n'était pas du tout.
On ne peut pas dire que ce soit. C'est pas Zelensky, c'est pas un humoriste, ça c'est sûr. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement dépressif et profondément.
Bourdieu.
Voilà. Mais sa vision du monde, c'est du matérialisme à la Bourdieu, c'est pas la mienne, donc ça finit pas. Et puis son rapport aux femmes, je suis désolé, non, ça me fait vomir, quoi. Là, donc c'est pas ma tasse de thé. Mais encore une fois, c'est un vrai écrivain, je dis pas le contraire. je respecte, j'admire même à certains égards, mais ça ne m'intéresse pas.
Voilà, moi j'ai trouvé ça très bien.
Bah, ça m'étonne pas de vous.
Pas du tout.
Ah, vous savez bien, mon cher Guillaume, que nous avons quelques divergences sur l'art contemporain.
Bah, remarque,
la littérature.
De ce point de vue-là, oui. Vous savez qu'il vous rejoint. Parce qu'il
est très anti-Picasso.
Voilà, il fait un portrait de Picasso absolument détestable, justement, à la fin de ce petit livre qui fait une centaine de pages et qui est publié chez Flammarion. Donc vous voyez qu'il est plus mesuré d'une certaine manière.
Ah, c'est pas mesuré, il est très anti-Picasso, voilà, comme l'était Lévi-Strauss. Hein, vous savez, il y a un article de Lévi-Strauss qui est tout à fait remarquable sur Picasso. Voilà. Et ce que dit Houellebecq, c'est que Picasso n'a pas le sens de la couleur. Voilà, c'est la formule qu'il utilise.
Il déforme les femmes parce qu'il les déteste d'une certaine manière.
Ben, lui, il les aime pas beaucoup non plus.
Voilà, donc.
Mais bon, ça, c'est degustibus et coloribus, comme on dit.
Lisez-le et revenez la semaine prochaine. 8h56.